Bonjour, j'espère que vous allez bien. En venant à l'église ce matin, j'ai vu qu'il n'y avait pas de place pour garer la voiture. J'ai dit alors, l'église est pleine aujourd'hui. L'église sera pleine aujourd'hui, mais non, ils sont là pour les VTT, je pense qu'il y a des courses aujourd'hui ici en Uzès. On a vu qu'il y a beaucoup des gens qui sont venus. Tant pis pour eux, hein? Pour nous, c'est mieux que nous sommes dans la maison du Seigneur et qu'il a quelque chose à nous parler ce matin. Je suis reconnaissant pour cela. Je voudrais partager avec vous un texte, une parabole. Généralement, quand on va parler des paraboles, c'est des choses que parfois on pense qu'on la comprend, mais on ne comprend pas trop. On doit vraiment bien étudier, bien essayer de voir qu'est-ce que vraiment le texte il veut dire, qu'il veut enseigner. Parce que parfois, on peut aller à gauche, à droite et pas parler correctement sur des paraboles. Donc, parfois, on pense que c'est très facile, mais pas trop. On doit vraiment étudier, connaître les textes, connaître au niveau de la littérature, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, les contextes historiques, les contextes littéraires, plein de choses pour comprendre à quel moment que les paraboles que Jésus enseignait, à qui il enseignait, pourquoi qu'il enseignait ça. Donc, parfois c'est un peu difficile. Et je voudrais partager sur une parabole aussi, qui c'est pas du tout facile. Ils disent que c'est la parabole plus difficile de prêcher, parce qu'il y a tellement de choses dans les textes qu'on comprend et d'autres qu'on ne comprend pas trop. Est-ce que c'est comme ça ou pas, ne sera pas comme ça? Mais j'ai essayé d'étudier beaucoup et de bien me préparer, mais on ne sait pas trop. J'espère que le Seigneur puisse parler dans vos cœurs. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19 à 31. Et notre frère va nous afficher ici. Et je voudrais que peut-être la belle voix de notre frère Antoine, puisse lire pour nous. Donc, Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Merci. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. C'est elle qui nous parle dans nos cœurs. C'est elle qui a la puissance, c'est ta parole. C'est elle qui parle à nos cœurs, c'est ton esprit qui brise nos cœurs. Tu puisses nous parler ce matin, tu puisses nous édifier ce matin. Tu puisses, Seigneur Dieu, peut-être donner la vie éternelle à quelqu'un au milieu de nous aussi, Seigneur. C'est toi qui fais ton œuvre selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un proverbe slovaque qui dit « Les portes de l'enfer sont toujours ouvertes, même à minuit. » Êtes-vous prêt pour aller en enfer? Êtes-vous prêt pour aller au ciel? Les paraboles de Jésus, par les moyens, les billets des paraboles, Jésus utilisait toujours des images courantes et des histoires quotidiennes pour enseigner les vérités et la volonté de Dieu aux gens qui étaient à côté. C'était une pédagogie simple, accessible et agréable pour illustrer et illuminer des profondes leçons spirituelles. Par contre aussi, les paraboles cachaient la vérité aux personnes imprégnées de leur propre justice, aux érudits et aux religieux orgueilleux, car ils étaient des incrédules et des gens qui rejetaient et s'y opposaient à Jésus. Aujourd'hui, nous devons faire très attention quand quelqu'un va enseigner, parler d'une parabole biblique pour voir si c'est vraiment la vérité ou pas. Parce que parfois, j'ai entendu des gens qui prêchaient des paraboles, c'était rien à voir du texte. Mais nous devons faire très attention. En regardant le contexte que Jésus s'est trouvé pour parler de ces paraboles, de cette parabole, Jésus, il enseignait la vérité du royaume de Dieu aux disciples et aussi aux pharisiens. Les pharisiens étaient un groupe qui écoutait l'enseignement de Jésus, mais en même temps, ils s'y moquaient. Oh, qu'est-ce qu'elle enseigne? C'est pas vrai. Non, nous ne sommes pas d'accord. Cet homme ne connaît rien. Nous sommes des pharisiens. On connaît tout. Alors, la Bible dit que Jésus connaissait leur cœur. Et à cause de leur réaction face à la parabole précédente, qui Jésus a parlé de l'économe infidèle, après cette parabole, Jésus alors il va raconter cette parabole de l'homme riche et de l'homme et de Lazare. Les pharisiens étaient un groupe religieux qui observait rigoureusement les règles de la loi de Moïse. Ils étaient impliqués aussi dans l'application de la loi, s'efforçant de faire respecter les règles et toutes les cérémonies. Ça veut dire que lui, il respectait, il regardait tous les juifs s'ils étaient en train de faire ou pas. Est-ce qu'ils sont en train d'obéir ou pas? Tu n'obéis pas à la loi, tu dois faire ceci, c'est ça. Parce que ce sont des hommes qui faisaient ça. On respecte la loi et on va regarder si vous êtes en train de faire. La plupart des pharisiens étaient aussi, regarde bien, la plupart des pharisiens étaient certains de mériter les ciels. Nous sommes juifs, mais nous sommes pharisiens. Les ciels, c'est à nous. Le cœur des pharisiens était rempli d'orgueil, de convoitise, d'avarice et d'amour à l'argent. Leur intérieur était corrompu, tandis que l'extérieur, ils possédaient des richesses matérielles. Ils pensaient que la prospérité matérielle témoignait qu'ils étaient des hommes justes. Regarde, nous avons des biens matériels, nous avons de belles maisons, nous avons de belles voitures, nous avons des anneaux là, magnifiques en or, en diamant, on est beau, on mérite le ciel. Parce que nous avons la prospérité. Nous sommes pharisiens et nous avons la prospérité. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup d'églises, des pasteurs qui pensent à ça aussi. La prospérité, parce que Dieu est en train de nous bénir énormément, il y a plein de choses. Au Brésil, il y a beaucoup. Aux États-Unis, il y a beaucoup. En Afrique, on commence à avoir la même chose. Des hommes qui prêchent la prospérité. Et si tu n'as pas prospère, parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Alors, Jésus, dans ce contexte, avec grâce et amour, va raconter cette histoire pour avertir les auditeurs en leur présentant plusieurs réalités opposées. Dans ce texte qu'on vient de lire, il parle d'un riche et d'un pauvre. Il parle de la mort et de la vie. Il parle des tourments et des consolations. Il parle de l'enfer et le ciel. Il donna les vérités spirituelles profondes concernant au-delà. Qu'est-ce que vous connaissez de la vie après la mort? On ne connaît rien. Personne n'a pu venir pour nous dire quelque chose. Au Brésil, il y a une religion qui s'appelle les espiritistes. Si j'ai peut-être les mots comme ça. C'est une religion en qui ils cherchent les spirituels. Quelqu'un qui a déjà mort, on va essayer de les appeler pour venir, rentrer dans le corps d'une personne pour pouvoir parler à la famille. Il y a très, très nombreux de gens qui sont au Brésil, qui sont dans cet spiritisme, qui participent. Il y a des églises comme ça. Ce n'est pas une église chrétienne, mais là-bas, ils vont utiliser la Bible, ils vont utiliser aussi plein de livres, et aussi ça, ils sont énormes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, ils cherchent quelqu'un qui est déjà mort, ils vont venir rentrer dans un corps de quelqu'un pour révéler quelque chose. Ah, donc, ce sont des choses un peu comme ça. C'est normal. En Afrique, on voit que les gens, ils cherchent les anciens esprits, pour ça aussi, pour la révélation de quelque chose, de ses ancêtres. Mais on sait tout. C'est pas, ce sont des démons qui viennent, ils rentrent dans leur cœur pour faire des choses. Donc, Jésus, il vient pour là, il donna des vérités spirituelles dans ce texte pour vraiment montrer qu'est-ce que c'est au-delà. Parmi ces personnages, dans la Bible, il y a Jésus qui a plus parlé de l'enfer. C'est que lui qui a parlé de ça. D'autres ont parlé, mais pas autant que lui. Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de normal. Ça fait 25 ans que je suis pasteur. Ça fait plus de 30 ans que je prêche la parole de Dieu. Mais si j'ai prêché sous ce texte, c'est 3 ou 4 fois, pas plus. Parfois, on ne parle pas trop. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, ça fait déjà un mois que Dieu a parlé dans mon cœur, qu'on devait parler de ça, que je devais me préparer aussi. Donc, on arrive dans ce texte maintenant. Il parle d'un homme riche qui s'habillait de vêtements les plus fins et les plus coûteux. Il vivait dans le luxe et mangeait des bons repas. Une vie joyeuse et brillante. Bien qu'il ne soit pas identifié par un prénom, parce qu'il n'a pas de prénom, il s'agissait d'un juif, il sous-croit d'un personnage religieux, pas un païen. Comment qu'on sait? Parce qu'il s'adressait à Abraham comme père Abraham. Quand il parle comme ça, ce sont les juifs qui avaient cette attitude envers Abraham. Donc, Abraham lui répondit, mon fils. Donc, par là, on sait que c'était un juif. Alors, c'était un homme qui avait une connaissance de la loi de Moïse. Pour la plupart des auditeurs de Jésus, cet homme était particulièrement béni des dieux. Parce qu'il était riche, il était juif, il connaissait la loi de Moïse. Il était un fils d'Abraham, élu de la promesse, un homme juste. Ce sont les auditeurs, hein, c'était les gens-là qui les voyaient comme ça. Par contre, j'attire votre attention que la Bible nous enseigne, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Qu'est-ce que je regarde? Ah, l'homme est riche. Ah, c'est juif. Ah, il connaît. Ah, c'est un homme bon. Ah, il va aller au ciel. Mais l'Éternel regarde le cœur. Les hommes regardent les choses matérielles et Dieu regarde le cœur. Cela veut dire que Dieu, il regarde ton cœur, il regarde mon cœur. Il regarde comment ça va notre communion avec lui, comment va notre intimité avec lui, comment va ma vie spirituelle auprès de lui. Dieu l'observe dans notre cœur, dans notre vie, comment va notre conduite devant la société. Est-ce que nous sommes en train de pratiquer la parole de Dieu ou pas? On vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, c'est bon. Et on vit la vie comme on veut dehors de l'église. Le Seigneur, il regarde notre cœur, il regarde notre vie, il tire notre attention en disant que nous devons écouter la parole. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Écoutez la parole de Dieu, il n'a pas pratiqué. Si notre cœur il n'a pas tourné vers le Seigneur, c'est un raisonnement faux, erroné. Et cet homme riche, c'est ça qu'il est en train de vivre. Il était un homme qui a écouté la loi de Moïse, qu'il savait, il était juif. Mais pour pratiquer la parole de Dieu, c'est une autre chose. Cet homme riche avait des faux raisonnements et il s'est trompé lui-même. Parfois, on vient à l'église, on aime écouter la parole de Dieu. C'est bien, mais on ne change pas. Il n'y a pas une conversion dans notre cœur. Il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui me change. C'est un faux raisonnement. Nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Et c'est ça que le Seigneur il veut changer dans notre vie avant d'arriver à l'enfer. Parce que quand on arrive là-bas, on n'a pas de retour. Moi, j'étais jeune chrétien et je sais que quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai passé encore un an pour vraiment me convertir au Seigneur. Parce que j'étais jeune, j'étais 18 ans. Il y avait tout le monde, il y avait plein de choses. Joueur de foot, beaucoup de bière, beaucoup de choses, beaucoup de femmes, des drogues, ce qu'ils voulaient. Merci Seigneur, je n'ai jamais utilisé des drogues, plein de choses. Mais quand je suis venu en Jésus, ce n'était pas facile pour laisser tous ces chemins. Oublier tout ça, c'était dur. Mais le Seigneur m'a donné la force parce que ces versets, Jacques chapitre 1, verset 22. Je ne vais pas écouter seulement la parole de Dieu, mais je vais la pratiquer. Je vais la vivre. Je vais crucifier mon ego, mon être humain, et je vais vivre par Christ. Et c'était ça. On regarde cet homme. Il n'y a plus de chance à retourner. On voit de l'autre côté Lazare, un autre personnage du texte. Il était pauvre et il était couché devant la porte de cet homme riche. Son corps, il était couvert de plaies. Il devait même supporter de voir que les plaies étaient léchées par les chiens. C'était horrible. Il ne pouvait même pas chasser les chiens qui venaient pour lâcher ses plaies. Il vivait dans la misère la plus extrême, paralysé, incapable de lever pour pouvoir à ses besoins. Il aurait même voulu se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. C'était une réalité terrible. Pour les auditeurs de Jésus, les pharisiens, Lazare, il était un homme maudit par Dieu. Mais dans ce texte, il y a un renversement de situation. La Bible dit que les deux sont morts. Les pauvres furent portés par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que les riches furent ensevelis et alla dans le séjour des morts. Comme il était un homme riche, on peut penser que quand il est mort, il avait un funérailles magnifique. Funérailles magnifique. Des pompes, des gens qui venaient. C'était un bon homme. Il était juste. Ah, cet homme, il était bon. Tout le monde qui parlait bien de lui. une belle voiture qui pouvait apporter hein, son cercueil, plein de choses. Par contre, le pauvre, il est mort, peut-être il est jeté à quelque part. Mais la différence, c'est là, que le pauvre, il était amené, apporté dans le sang d'Abraham. Ça veut dire quoi? Le sang d'Abraham désigne une place d'honneur à la table d'Abraham. Dans la culture de l'époque, les invités à un banquet de cette nature étaient assis sous les coussins autour de la table et adoptaient une position légèrement inclinée sous la poitrine de celui qui a de l'autre. Donc, on voit que Lazare, elle était dans la table avec Abraham, qu'elle était couchée, même sa tête était sous la poitrine d'Abraham. C'est un peu dans ce sens. Ça veut dire quoi? Qu'elle est dans le bonheur. Qu'elle est dans un lieu, dans une place honorable. Parce qu'elle était à côté d'Abraham et elle était là-bas. Mais les mots aussi, sang d'Abraham, symbolisent également les ciels, les paradis, les séjours des morts pour les croyants. Il fait référence à un lieu de séjour provisoire pour les fidèles chrétiens morts avant la venue de Christ, les saints d'Abraham. Mais pourquoi Lazare se retrouve-t-il au paradis? Pourquoi il se trouve au paradis? Le nom grec Lazare vient du nom hébreu Eliazar, qui signifie Dieu mon aide. C'est lui que Dieu a secouru. Ce prénom, il évoque l'idée des faveurs divines. Avec ce prénom, Jésus indiquait pour ces gens qui étaient là que Lazare était un homme juste. Non parce qu'il était pauvre, parce qu'il était malade, parce qu'il était en souffrance, en misérable. Non, parce qu'il faisait confiance en Dieu. L'Éternel était son secours. Jésus voulait enseigner que peu importe les souffrances, la maladie, la pauvreté ou l'injustice sociale, peu importe quelque chose que nous pouvons passer dans notre vie ici-bas, mais cela ne va pas nous empêcher d'aller au ciel. Parce que qui nous devons faire? Accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ça que nous devons faire. Nous devons recevoir Jésus, celui qui donne la vie éternelle. Peu importe, nous devons faire confiance en lui. La Bible nous enseigne que tous les hommes, nous sommes des pécheurs, comme Daniel nous a parlé ici du psaume 51. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de la grâce et de la présence de Dieu. Car Dieu est bon, Dieu est saint, il est amour, mais il est aussi juste. Il est juste. L'unique moyen que nous pouvons s'approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est que lui. C'est lui qui peut pardonner nos péchés, peut nous purifier comme elle a fait dans la vie de David, le roi David. C'est lui qui peut nous justifier et c'est lui qui peut nous apporter au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin. Peu importe, mon frère et ma sœur, si nous sommes riches ou si nous sommes pauvres, si nous sommes malades ou si nous sommes en bonne santé, si nous sommes européens, asiatiques ou sud-américains, peu importe. Si nous sommes des hommes ou des femmes, si nous sommes des enfants ou des vieux, Dieu, Jésus, il est notre justificateur. Tu peux faire confiance en lui. Tu peux donner ta vie en lui. Jésus peut te sauver et t'amener et t'empêcher d'aller en enfer. Mais fais-lui confiance. Que ta vie soit 100% avec lui. Que ton cœur soit à lui. On voit la situation de cet homme, Lazare. Mais l'homme riche. L'homme riche, il était placé dans le séjour des morts. Lieu des incrédules, des incroyants, des infidèles. L'endroit où habitent ceux qui sont morts sans être sauvés. C'est un lieu de tourments, des ténèbres et des souffrances. Mais pourquoi les riches se retrouvent-ils dans l'enfer? Selon toute apparence, cet homme religieux, il était un homme religieux, Jésus ne l'accuse pas des péchés grossières. L'histoire ne mentionne d'ailleurs aucune mauvaise action qu'il aurait commise. C'était un citoyen haut placé, typique de cette société. Il est évident qu'il était égoïste, indifférent aux autres et insensible aux besoins autrui, parce qu'on a vu qu'il avait Lazare qui avait besoin. Il n'a rien fait pour cet homme. On sait qu'il était un peu dans ce sens. Mais il n'était pas un homme cruel, malfaiteur. La situation, mais là, après la mort, la situation de cet homme a carrément changé. Il se retrouve maintenant à l'enfer, dans les ténèbres et les souffrances. Parce que l'enfer, mon frère et ma sœur, selon les textes, c'est un lieu d'agonie, des cruels regrets éternels, d'angoisse, des tourments incapables et des brûlants. C'est la peine d'une âme éternellement tourmentée. Selon la Bible, la résurrection de Christ, après que Jésus a ressuscité, les croyants morts sont auprès du Seigneur, au paradis. Tandis que ceux qui sont morts, qui n'ont pas on fait confiance au Seigneur Jésus, ils vont directement à l'enfer. Et là-bas, il y a des tourments, des ténèbres, et là-bas, il va attendre jusqu'au jugement final. Il va rester là-bas dans un moment de souffrance, de douleur, et plein de choses. Alors, je suis venu d'une famille catholique. Et ceux qui étaient catholiques, vous le savez très bien, on pensait beaucoup au purgatoire. C'est quoi le purgatoire?
Un lieu intermédiaire.
Intermédiaire.
Et ça veut dire qu'on
peut essayer de... Oui, c'est ça. Selon le catéchisme catholique, donc tu es en terre, tu es mort, avant d'arriver là-bas au paradis, il y a le purgatoire. Tu étais déjà bien avec l'Église catholique, tu étais une bonne personne, pas de soucis. Bon, quand tu es mort, tu vas aller au purgatoire. C'est un moment de purification. Tu seras purifié là-bas. Comment? Que ta famille qui sera ici par terre, ils vont faire des messes, ils vont faire des prières, des supplications pour toi. Ils vont à l'église, ils vont donner, de faire des dons pour l'église à ta faveur. Il est temps, selon le temps, on ne sait pas combien de temps, un an, deux ans, dix ans, que ta famille va prier, va faire des supplications, plein de choses, des pénitences pour toi. Alors tu vas quitter le purgatoire et tu vas aller au ciel. C'est ça. Une des questions que Martin Luther, quand il a fixé les 95 thèses contre l'enseignement catholique, une des choses c'était ça, les indulgences que les gens payaient pour les pardons de leurs péchés aussi et pour aller directement au ciel, même pas passer pour le purgatoire. Donc il pense, l'Église catholique, qu'il y a ce purgatoire, mais la Bible ne parle pas de ce purgatoire. Il ne parle pas. Tu es mort, tu vas aller à la présence de Dieu ou tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller déjà goûter la présence, le bonheur, la joie de Dieu, de la présence de Dieu ou tu vas aller en enfer, dans le tourment, dans les ténèbres, dans la souffrance. C'est ça. Une chose très importante, qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer? Il y a beaucoup de religieux. Beaucoup de sympathisants de Dieu. Beaucoup de sympathisants de la Bible. Des gens qui disent, oh oui, je respecte, j'aime même la Bible, j'ai une Bible chez moi. Mais tu ne lis pas. Tu ne mets pas en pratique. Tu ne fais pas ce que Dieu dit de faire. C'est ça le problème. Au Brésil, beaucoup de gens, ils ont l'habitude de prendre les psaumes 91. Prends la Bible, puis psaume 91, on laisse ouvert comme ça, ça va protéger la maison, parce qu'il parle de protection. C'est pas vrai! Il y a des religieux, il y a des braves gens, Il a des hommes et des femmes.
Ouais, les femmes, vous êtes avec nous.
Non, non, non. On a des hommes et des femmes qui seront là-bas. Des riches et des pauvres. Mais il y aura aussi d'angoisse, des tourments, des ténèbres, des flammes, des châtiments. Mais la Bible nous exhorte quelque chose d'important. Il nous avertit, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 24, il dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que j'ai... En ton nom que nous avons été prophètes.
Non, que nous... Oui.
C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez les mals. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner? Jésus, il a l'intention de prévenir ses auditeurs que l'enfer s'est rempli des gens qui ne comptaient jamais de s'y trouver là-bas. Jésus voulait faire naître chez les pécheurs une profonde frayeur de l'enfer éternel. Un foi capable de se pousser à la repentance et à la foi dans l'évangile. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de sympathisants qui aiment Dieu, qui aiment avoir la Bible, qui aiment, mais dans son cœur, il n'a pas avec Dieu. Il n'a pas. Les riches se trouvaient dans l'enfer, car il a rejeté Jésus et ses enseignements. Il a rejeté Jésus et ses enseignements. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul moyen qui peut nous amener à la présence de Dieu et nous faire échapper de l'enfer. C'est que Jésus, il n'y a pas d'autre personne. C'est lui notre justificateur, c'est lui seul. Mais non, mais je suis juif, je suis enfant de la promesse, le fils d'Abraham. Peut-être d'autres peuvent dire, mais moi, je suis fils de pasteur, je suis fils de missionnaire, je suis fils de quelqu'un qui travaille à l'église depuis longtemps. Oui. Peu importe si tu es fils ou tu es fille, si tu ne te convertis pas, tu vas aller à l'enfer. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller à l'enfer. Si tu ne changes pas ton comportement, tu vas aller à l'enfer. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas aller à l'enfer. Je me préoccupe beaucoup avec des enfants qui sont chrétiens, qui sont nés dans une famille chrétienne. Parce qu'ils sont toujours, j'ai entendu beaucoup de fois, des fils des pasteurs ou des filles des pasteurs qui disaient, je n'ai pas besoin de prier parce que mes parents, ils prient beaucoup déjà pour moi. C'est vrai, les pasteurs, nous, les missionnaires, on prie tous les temps. Des frères qui sont diacres, des frères qui sont responsables d'église, on prie beaucoup. Bon, je n'ai pas besoin de prier, les gens prient pour moi. Je n'ai pas besoin de lire la Bible, les gens lisent pour moi, je vais aller le dimanche. J'ai entendu plusieurs fois, j'ai vu des jeunes comme cela quand il a tombé dans le péché énormément, a fait des choses contraires à la volonté de Dieu, était loin de Dieu. Non, 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 c'est individuellement. C'est toi qui dois prendre la décision, c'est moi qui dois prendre la décision, Dieu ou le diable. Le ciel ou l'enfer. C'est toi. Je ne peux rien faire pour ma fille. Je ne peux rien faire pour la sauver. C'est elle qui doit prendre la décision. De ma part, je vais enseigner la Bible, je vais l'expliquer, je vais tout enseigner. Mais dire que moi, je vais les sauver, non, c'est elle. Dans l'enfer, en souffrance, les riches voient Abraham et Lazare. Ils essaient de demander au père Abraham s'il pouvait laisser Lazare venir là où il se trouvait afin de demander une goutte d'eau, car il était au milieu des flammes. Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare qu'il mette les doigts là, dans l'eau et après il vient mettre dans ma bouche parce que je suis dans la souffrance. La réponse d'Abraham, versets 25 et verset 26. Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous, ainsi que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on n'aimait pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Une autre chose, il n'avait pas. La réponse d'Abraham, elle est claire et nette. Pas possible que Lazare vienne à ton secours. Il n'a pas de moyens. Il n'y a pas. Personne ne peut changer de côté. Abraham ne pouvait même pas aller. Lazare ne pouvait même pas aller. Et l'homme riche ne pouvait pas monter au ciel. Non, non, il avait un abîme. L'enfer, c'est un châtiment, pas un remède. Une fois que la personne il est, il n'y aura pas de soulagement. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'enfer? Pas de porte de sortie. Pas de connexion avec le ciel. Pas de joie, pas d'espoir. Pas des saints qui ont décidé de marcher fidèlement avec Christ. Ceux qui ont pris la décision aujourd'hui, hier ou avant-hier, ou peut-être demain, qui ont décidé de marcher avec Christ, donner sa vie avec Christ, marcher d'être fidèle à lui, il ne sera pas dans l'enfer parce qu'il a fait confiance Jésus-Christ. Nous savons par d'autres déclarations claires de l'Écriture que les gens en enfer ne peuvent pas apercevoir le ciel ni reconnaître les gens qui s'y trouvent, et encore moins entretenir des conversations avec eux, comme il y avait des conversations entre Lazare, entre l'homme riche avec Abraham. Il n'a pas de conversation. D'autres textes bibliques ne disent pas. Il n'y a rien de connexion. C'est un lieu d'isolement total et séparé du ciel. Mais l'homme riche, il va faire une deuxième demande. Les versets 27 et les versets 28, il dit, les riches disent, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères qu'elle les avertit afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans les lieux de souffrance. » Cela veut dire que cet homme, il a dit, Père Abraham, s'il te plaît, non, même pas s'il te plaît, tu peux envoyer Lazare là-bas pour voir ma famille, pour voir mes 5 frères, pour les avertir de ne pas venir ici. Parce que la situation ici est terrible. Je ne veux pas que mes 5 frères viennent ici. Les riches, on peut voir que les riches n'ont même pas fait une demande pour lui. Ils pouvaient dire, Père Abraham, aie pitié de moi, parce que je suis là dans la souffrance. Tu peux m'enlever d'ici, je vais venir. Mais non, il pense à ses frères. Et par contre aussi, mais pourquoi qu'il ne pense pas à lui, il pense à ses frères? Parce qu'il savait, il est dans l'enfer, parce qu'il méritait d'être là-bas. Il méritait d'être là-bas. C'est pour ça qu'il ne demande pas de grâce ou de pardon. Parce qu'il savait que dans sa vie, il n'était pas correctement. Par contre, il pense à ses frères, parce qu'il sait que ses frères vont avoir les mêmes condamnations. Parce que ses frères avaient les mêmes attitudes que lui. Parce que ses frères avaient les mêmes raisonnements. Ses frères avaient les mêmes croyances. Leur destin était aussi... S'il ne prend pas un changement de comportement, il y a quelque chose qui va se passer. Après la réponse d'Abraham, verset 29, Abraham répondit: tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. En d'autres paroles, il dit, tes frères, ils ont là-bas Moïse, la parole de Dieu, la loi, les Pentateuques, les cinq livres d'Ancien Testament, ils ont les prophètes, ça veut dire, ils ont tout l'enseignement de la prophétie. Tout l'Ancien Testament, ils ont la parole de Dieu. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils pratiquent. Et s'ils font ça, c'est mieux qu'ils ne vont pas venir où tu es. Ils vont venir auprès de moi. C'est ça qu'il va dire. Il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils puissent lire, comprendre et chercher de changer leur comportement. Mais les riches, ils insistent pour ses frères. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Les riches pensaient que la réapparition d'un mort amènerait à leur conversion. Imaginez-vous qui est en train de dormir, il y a un esprit qui vient vous réveiller. Et c'est quelqu'un. Ça ne va pas arriver, hein. On ne croit pas à ça. Mais c'est ça que cet homme riche est en train de dire. Lazare va aller. Est-ce que ses frères vont vraiment faire confiance que cet homme est venu, mais pourquoi qu'il est venu? Ben non. Non. C'est pas comme ça la vie. C'est pour ça que ces groupes de spiritisme là-bas au Brésil, ils sont très nombreux. Ce sont des millions et des millions de gens qui croient à ça. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Dans la réponse d'Abraham, verset 31. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Même. La réponse d'Abraham est une affirmation puissante de la suffisance de l'Écriture. Le pouvoir réside dans la parole de Dieu. Cela veut dire que, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne sous le ciel et sous l'enfer? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons lire? Comment nous devons écouter? Comment nous devons marcher? C'est la parole de Dieu. Abraham, il dit, lisez la parole, écoutez et marchez selon la parole. C'est ça que vous devez faire. Prenez la décision maintenant. Sois fidèle maintenant. Donne ta vie à Jésus maintenant. C'est ça qu'il veut. Si ces cinq frères ne veulent pas écouter la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Nous, comme missionnaires et pasteurs, on prêche la parole de Dieu à beaucoup de gens différentes. J'ai eu la grâce du Seigneur de partager la parole de Dieu à plusieurs gens de différentes cultures, de langues différentes, dans des ethnies différentes, en Afrique, au Paraguay, avec les Guarani, avec les Paraguayens, plein de choses, Burkinabé, au Mali, plein de choses. Tous. Ce sont des pécheurs et des gens qui vont aller à l'enfer s'ils ne prennent pas la décision de marcher avec Dieu. Et moi, j'ai prêché la parole de Dieu avec grâce pour la miséricorde parce que Dieu a mis dans mon cœur de partager ça. Et on a pu baptiser beaucoup de gens qui ont cru à la parole de Dieu. Ils disaient, je ne veux pas aller en enfer. Je prends ma décision aujourd'hui de marcher avec Christ. Je crois à la Bible. Je crois en Dieu. Je veux marcher selon. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de religieux. On sait que quand les gens allaient en enfer, on va voir des gens qui ne pensaient pas d'être là-bas. Des pasteurs, des missionnaires, des femmes de pasteurs pleines. Pleines. Des gens religieux. Et ce n'est pas ça que Dieu lui veut. Il veut que toi et moi, que nous puissions s'engager avec lui. La parole de Dieu, elle est claire. Elle parle du salut par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. L'apôtre Paul, il savait ça. Il disait, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif ou du grec, d'Européens, des Asiatiques, des Africains et des Américains. C'est la parole de Dieu, c'est elle. Nous allons prier. Cette parabole, elle parle que ces riches symbolisaient les pharisiens qui croyaient, qui ne croyaient pas en Jésus, qui rejetaient Jésus, qui moquaient de Jésus, des hommes orgueilleux qui pensaient qu'ils étaient justes. Mais les pharisiens, tous qui ont rejeté Jésus, ils sont allés en enfer. Mais la Bible parle de ces Lazare qui symbolise tous les croyants, tous ces gens qui ont décidé de marcher avec Christ depuis le premier siècle, qui ont décidé de marcher avec Christ jusqu'à nos jours, des hommes et des femmes, des enfants, des vieux, toutes les générations qui ont décidé de donner leur vie et de marcher avec Jésus. Si tu es là aujourd'hui, parce que tu as entendu la parole de Dieu, parce que tu as compris la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu as déjà pris la décision de suivre Jésus, de marcher avec lui. Et je loue le Seigneur. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore pris cette décision. Elle est toujours sous le mur. Elle est toujours sous le mur et elle ne choisit pas le bon chemin. De quel côté? Je voudrais simplement te dire, prends ta décision vite de marcher avec Christ. C'est lui qui te donne la vie, la paix, la joie, le bonheur. C'est lui qui t'amène au ciel. Seigneur, tu connais notre cœur, tu connais notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui pardonnes nos péchés, c'est toi qui nous purifies. Et je te remercie beaucoup. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les frères et sœurs qui ont déjà pris la décision de marcher avec toi. Quel bonheur, quelle joie. Il a des combats, il a des souffrances, il a des douleurs, il a des maladies, il a parfois des pensées qui ne sont pas bonnes. Il a plein de combats que nous avons, Seigneur. Mais nous sommes tous joyeux de marcher avec toi, d'être auprès de toi, de voir que la Bible a plein de choses pour nous. Pour cela, je te remercie. Tu viens fortifier mon frère et ma sœur qui marchent avec toi. Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, Seigneur. Peut-être simplement, c'est en sympathisant de la foi chrétienne, mais qui n'a pas encore pris la décision de marcher correctement avec Dieu. Seigneur, peut-être il y a des chaînes qui sont en train de les attacher. Et nous pensons, Seigneur Dieu, que tu peux briser toutes les chaînes, tu puisses briser toutes les faux pensées, tu puisses briser toutes les choses qui l'attachent dans le passé, dans la chair, dans le monde, Seigneur Dieu, qui l'amène dans l'enfer, Seigneur, que tu puisses avoir pitié, tu puisses libérer, Seigneur, que tu puisses libérer cette personne, que tu puisses sauver à nos jours, soit ici à l'église, soit les gens qui sont autour de nous, dans nos familles, Seigneur, nos familles, nos enfants, les petits-enfants, tous les oncles, les grands-parents, Seigneur, que tu puisses sauver à chacun d'eux. Parle à leur cœur, Seigneur, parce que nous voulons que nous tous, que notre famille tous puisse aller au ciel auprès de toi. Seigneur, merci pour ta miséricorde envers nous et nous pensons à nos bien-aimés qui sont proches aussi. Nous te demandons le salut de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup parlé, je suis content. Merci.